Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement. Et merci si vous êtes là depuis le début à suivre. Notre invité, c'est l'écrivain Michel Bussy pour son nouveau polar, 3 vies par semaine. Je salue Héloïse Goua. Bonjour Héloïse.
Bonjour Philippe, bonjour Anissa, bonjour, bonjour à tous.
Salut Héloïse.
Bonjour Philippe.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Merci de m'avoir affiché.
C'était qui cet appel? C'était important?
Non, mais même pas. C'était une chanson. C'était du Francis Cabrel.
J'ai reconnu. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'ai peur car je sens que je vais devoir me mettre mes doigts dans les oreilles, car vous avez regardé un programme érotique.
Oh, écoutez, vous mettez vos doigts où vous voulez, Philippe. Hein. Ça concerne que vous et vos proches. Mais en effet, j'ai regardé Koh-Lanta cette semaine. Donc je vous rassure, c'était de l'érotique très soft. Hein, parce que dans ce jeu, tu peux exciter les gens avec vraiment pas grand-chose. Là, la maîtresse dominatrice, c'était Denis Brognard, qui est vraiment le seul à pouvoir dire des choses comme ça avec autant de conviction.
Sachez que c'est dans l'adversité que l'on va au bout de soi-même. N'oubliez jamais que l'équipe qui gagne repart avec 4 poulets.
N'oubliez jamais que l'équipe qui gagne repart avec 4 poulets. C'est le plus beau cri de guerre que j'ai entendu depuis mon enfance quand je regardais Les Maîtres de l'Univers avec Musclor l'éclair.
Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens
4 poulets.
Donc voilà. Le sujet de tous les fantasmes de l'épisode, c'était 4 poulets. Et maîtresse Denis a tout fait pour exciter les candidats.
Plus que des mots. Regarde.
Oh,
4 poulets rôtis. Évidemment, la petite sauce.
La petite sauce.
Ouais. On a vu Denis mettre sa petite sauce sur les poulets. Moi, j'étais en sueur sur mon canapé. Hein. En plus, comme tous les sadiques, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour susciter le désir des naufragés.
Martin, je vous vois les regarder comme si vous aviez envie de les apprivoiser, ces poulets.
Alors, si je peux me permettre, ça sert à rien d'apprivoiser des poulets rôtis.
Ah. Oui, c'était mort.
Non, mais des poulets vivants, les échanges sont pas déjà top. Bon, alors, des poulets rôtis, faut pas t'attendre à ce qu'ils te fassent la fête quand tu rentres chez toi. Mais Martin avait l'air quand même pas insensible complètement.
J'aurais jamais imaginé qu'un poulet puisse me faire autant d'effets. Mais alors là, c'est magistral.
Ah, je vous avais dit que c'était chaud, hein. Et il n'y a pas que Martin qui était sur le coup. Elena aussi était émoustillée.
Ce poulet est magique. Pourtant, je mange du poulet une à deux fois par jour, d'habitude.
Une à deux fois par jour. Je crois qu'on est sur une candidate végane. Hein, vous voulez que je vous dise, Philippe, ça m'a fait du bien de regarder cette déclinaison porn-food de Koh-Lanta. Parce que j'en pouvais plus des actus angoissantes. Les retraites, l'inflation, la crise climatique. Hier, j'ai encore fait une crise d'angoisse devant Bruce Toussaint alors qu'il a une tête de gros nounours. Même le président au Trésor, j'ai tenu 10 secondes.
Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'Élysée avec Julien Bugier. Bonjour Julien.
Bonjour Marie-Sophie, bonjour monsieur le président.
Bonjour Julien.
Bonjour Marie-Sophie.
Bonjour Julien, bonjour Marie-Sophie, bonjour monsieur le président. J'ai l'impression d'être aux alcooliques anonymes. Je peux plus. Le soir, quand je rentre chez moi, tout ce que je veux, c'est me rouler en boule et me vider la tête. Regarder des gens qui se hurlent dessus en slip sur une plage plutôt que de regarder des gens qui s'engueulent en costard à l'Assemblée. Alors je me suis dit, un peu de joie, un peu de soleil, un peu de légèreté. En plus, lundi, c'était le printemps.
Tout le monde fait un petit peu la tronche parce que parce qu'il fait moche et tout. Et...
Ça va pas, honnêtement. J'ai pas dormi de la nuit. On est inondé de la tête aux pieds. Après la pluie vient le beau temps, mais pas ici, je crois.
Eh ben super, youpi la vie. Hein. Visiblement, c'est la grosse patate aussi. Pour une émission de divertissement, ben, fin du divertissement à 21h34. Donc dans cet épisode, il y avait un enjeu assez balèze. Je ne sais pas si je vous en ai parlé.
4 poulets.
Ah oui, maîtresse. Et la première épreuve, c'était déjà de comprendre l'épreuve. Hein, c'était de construire un radeau et une pirogue. Ils ont pas mal galéré, mais heureusement, un homme providentiel a surgi de l'ombre pour les sortir de là.
Je suis directeur commercial, donc c'est vraiment dans ma nature de prendre le lead. Généralement, je prends le temps de former mes coéquipiers, puis après, quand je vois qu'ils gèrent, je délègue. Mais là, on n'a pas le temps, donc je préfère gérer moi-même.
Ouais. Quand c'est le directeur commercial qui est le plus compétent pour construire ton bateau, c'est que t'es dans la merde. Hein. Bon, au final, contre toute attente, ils ont quand même gagné la course, les poulets et évidemment la petite surprise de Denis à l'arrivée.
La victoire revient à l'équipe rouge. Évidemment,
La petite sauce.
C'est quand même très tendancieux, votre truc.
Vous en savez déjà trop.
Merci beaucoup, Jean-Luc. À demain. On vous retrouve avant demain chaque jour dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Anissa s'en remet pas. Non. C'est sur Europe 1, évidemment. Héloïse,
oui.
Votre indispensable du jour, ce sera lequel?
Alors, je fais un peu comme Jean-Luc Lemoyne aujourd'hui, une session de rattrapage. Je vous parle pas de Koh-Lanta, mais de trois séries passées sous les radars et qui méritent vraiment qu'on s'y attarde.
Jean Z, jeu vidéo, mais lequel?
Session de rattrapage aussi. Grand classique qui revient demain, le remake de Resident Evil 4. J'ai déjà croisé deux anciens joueurs qui m'ont avoué qu'ils ont joué
dans
à
les couloirs
Resident Evil. Exactement.
On a hâte. Michel Bussy arrive nous rejoindre.
Vous écoutez Culture Média jusqu'à 11h avec votre invité Philippe Vandel.
Bonjour Michel Bussy.
Bonjour.
Vous êtes romancier, 24 romans, 12 millions de livres vendus dans 37 pays. Je vais citer N'oubliez jamais, Maman a tort, qui est devenu un film sur France 2, Un avion sans aile, qui est devenu une série sur la 6. Le temps est assassin, qui est devenu une série sur TF1. Il y a aussi une saga pour la jeunesse Néo. Et vous avez créé une série pour France 2. C'était pas un roman précédemment. Ça s'appelle L'île prisonnière et ça a très très bien marché. 5 millions de téléspectateurs. Vous étiez en tête des audiences.
Oui, on a fait la tête sur les trois soirées, donc on était très très contents.
Votre actualité, c'est ce roman « Trois vies par semaine », c'est aux Presses de la Cité. Une histoire complètement folle et totalement réaliste. Un homme meurt, il meurt, mais on trouve dans la boîte à gants de sa voiture trois passeports. Les trois passeports sont authentiques, c'est la même tête, la même photo, mais avec trois noms différents. Trois types nés le même jour et les trois disparaissent en même temps, ce qu'on va apprendre. Qui sont-ils? Qui sont ces trois-là?
Bah, ce sont trois personnages qui sont assez banals en fait. Il y a Renaud Duval qui est celui qu'on retrouve mort en fait, qui est un représentant de commerce, qui est marié depuis 30 ans et qui a deux enfants. On a Hans Bernard qui est chauffeur routier et qui traverse plutôt l'Europe avec son camion. Et puis on a Pierre Rousseau qui est danseur étoile, plutôt parisien et plutôt voilà habitué aux paillettes.
Alors là, on se dit, en tant que lecteur, on se dit évidemment, le gars il avait des faux papiers. Non, c'est pas des faux papiers, c'est des vrais papiers qui ont été authentifiés.
Exactement, c'est vraiment trois personnes différentes du coup.
Mais attendez, c'est pas fini, c'est encore plus compliqué que ça. Je vous raconte mon week-end en fait. Parce que moi je me dis, je vais m'avancer, je vais commencer ce week-end à lire, commencer pour jeudi. Et je pouvais plus m'arrêter. Parce que chacun d'eux a une amoureuse et avec de belles histoires d'amour, chacune à sa façon, qui sont ces trois femmes, Nénès, Vicky et Eléa.
Oui, alors on a Nanès, effectivement.
Nanès,
c'est le surnom de Agnès, en fait. Mais dans le Nord, on appelle Nanès, donc elle habite Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Et c'est elle qui est mariée donc, avec Renaud Duval. Donc c'est une vie tout à fait cool, ordinaire. Et elle est plutôt. Elle accueille des enfants défavorisés, donc elle est famille d'accueil pour des enfants placés. Et puis on va avoir Vicky. Alors Vicky, elle habite le Cantal, près du Tarn, dans la Margeride, et tient un gîte. Et elle élève toute seule une petite fille. Et elle, c'est l'amoureuse de Hans, le chauffeur routier, donc ils ont leur vie comme ça, lui il est chauffeur routier, elle habite à la campagne. Puis enfin, on a Eléa. Eléa, elle est autiste, Asperger, et elle habite Paris, elle est serveuse à Paris, elle habite un tout petit appart, un peu minable à Paris, et puis elle vit avec sa solitude, et elle est très amoureuse donc de Pierre Rousseau, qui est en fait ce fameux danseur étoile, et ils ont surtout une conversation épistolaire, ils s'écrivent tout le temps, mais bien sûr, ils se retrouvent régulièrement pour s'aimer dans la capitale.
Alors, il y a aussi trois lieux. Il y a la capitale, il y a les Ardennes, il y a le Cantal. On n'est pas dans un vaudeville avec le type qui sort de chez sa femme pour aller chez sa maîtresse. Et il y en a un, par exemple, qui conduit des semi-remorques de 38 tonnes. Donc, ça ne peut pas être la même personne parce que l'autre n'a pas le permis poids lourd. Mais pourtant, c'est la même personne puisqu'ils disparaissent tous au même moment. Parce que ce qui est dingue, c'est que quand on découvre ce corps mort, on voit que c'est le premier. Mais le second ne donne plus de nouvelles. Le troisième ne donne plus de nouvelles non plus. Comment est-ce possible? Je vais évidemment pas tout raconter, mais on se demande tout au long du récit s'il y a une personne qui a trois identités ou s'il y a trois identités qui seraient fondues dans la même chose. Il y a beaucoup de choses dont j'ai appris l'existence. Par exemple, le pifi, ça existe vraiment ou pas?
Le pardon?
Le pifi.
C'est quoi le pifi?
C'est une note en bas de page, la page 33.
Ah oui, d'accord. Oui,
moi, j'ai dit pifi parce qu'en tant que lecteur de pif, et j'aimais bien Pifou, je me suis dit c'est le pifi. Ça existe vraiment, le pifi? Attendez, il faut que je retrouve ma note quand même.
Oui, c'est le fichier des personnes disparues, en fait.
Oui, le plateau d'investigation sur la fraude à l'identité.
Oui, exactement.
Vous l'avez inventé.
Non, ça existe vraiment. Mais non, je m'en souvenais plus parce que je me rappelais du plateau, mais plus de l'acronyme. Mais oui, non, ça existe vraiment. C'est-à-dire que, bah, évidemment, un service qui s'occupe des gens qui vont frauder une identité. Ça arrive d'ailleurs assez souvent, notamment pour des fraudes bancaires, pour des homonymes aussi. Ouais. Ça arrive assez souvent. On prend un homonyme et donc ça, voilà. Donc il y a bien un service de police qui s'occupe de ça.
Je salue tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent et qui travaillent au PIFI en ce moment. Vous restez avec nous parce que la raison pour laquelle, ou plutôt le point de départ de cette idée dingue, n'est absolument pas dingue. Michel Bussy est notre invité, à tout de suite dans Culture Média.
Europe 1. Culture Média sur Europe 1, Philippe Vandel avec Michel Bussy qui vient d'écrire 3 vies par semaine. Ça vient de sortir aux éditions de la Presse de la Cité.
Michel Bussy, vous écrivez dans ce roman dès le prologue. Méfiez-vous de tout ce que vous lirez, méfiez-vous de tout ce que vous apprendrez, méfiez-vous des fils invisibles, méfiez-vous de celui ou celle qui tire les ficelles. En tant que lecteur, on fait comment alors ?
Bah, on se laisse porter. Alors, il y a plein de lecteurs différents. Il y a les lecteurs qui se laissent porter, qui ne cherchent même pas à trouver, qui savourent. Et puis, il y a les lecteurs qui prennent des notes, qui s'arrêtent à chaque page, qui font des tableaux.
Qui enquêtent.
Ceux qui enquêtent, qui ont dit, ce trou-là, je vais trouver. Donc, il y a tout possible. Il y a ceux qui savourent. Moi, le meilleur lecteur, c'est celui qui veut lire le plus vite possible parce qu'il veut tourner les pages et qui, à un moment donné... Et dans un dilemme parce qu'il veut ralentir, parce qu'il a quand même pas envie que ça s'arrête, parce qu'il est avec des personnages, il y a du plaisir. Donc c'est ce dilemme terrible que j'ai quand moi je lis un bon bouquin, c'est-à-dire j'ai envie de lire de plus en plus vite et j'ai envie de ralentir parce que j'aime trop ce moment où je lis ce roman. Voilà,
et donc et ça, puis il faut résister à l'envie de sauter les pages pour savoir.
Ah ouais, mais alors là, c'est pas bon parce que généralement, on rate un épisode et après, à un moment donné, on se dit « Mais comment c'est possible ? Il était pas mort, il était... voilà. »
Évidemment.
Et, bah, donc là, non, il faut pas faire ça dans un roman
policier.
Et
moi, j'ai même commencé, je veux dire, j'ai même commencé avec Google Earth parce que comme vous êtes géographe de formation, je suis allé voir si l'endroit, je me souviens plus, dans les Ardennes, la chose des quatre frères, j'ai oublié le nom.
Oui, les quatre frères Raymond, ouais.
Voilà, je suis allé voir si ça existait et ça existe. Donc j'ai vu où le premier corps est tombé, où est-ce qu'il a garé la voiture. Vous allez sur place ou pas du tout ? Ou vous faites comme moi, vous faites avec Google Earth ?
Oui, moi, je suis allé sur place. Alors d'abord, j'aime bien écrire un premier jet sans aller sur place pour voilà, laisser l'imaginaire partir. Et après, je vais sur place pour vérifier. Par exemple, bon, il y a une grande scène qui se passe dans le festival des marionnettes de Charleville-Mézières.
Qui existe pour de vrai.
Qui existe pour de vrai. Alors moi, je me suis lâché, j'ai écrit un truc complètement fou avec des créatures fantastiques, enfin, vraiment le pur délire de science-fiction. Et puis après, je suis allé sur place et j'ai vu que ce festival de marionnettes, c'était encore plus dingue que ce que j'imaginais. Il y a des centaines de théâtres de rue dans tous les coins et donc ça m'a rassuré en me disant bah, finalement l'imaginaire parfois on n'est pas si loin de la réalité.
Comment vous est venue cette idée, si je suis bien informé, ça date d'il y a 13 ou 4, 14 ou 15 ans cette idée, comment vous est venue cette idée d'imaginer le même passeport pour 3 personnes différentes?
Bah, c'est vrai que parfois on ne sait pas comment naît une histoire, là je sais précisément puisque c'est le moment précis où je suis venu déclarer en mairie ma fille qui a 14 ans, qui va bientôt avoir 15 ans et bah, c'est un acte que tout papa fait généralement, c'est-à-dire qu'on va avec le papier de l'hôpital puis on va déclarer le prénom de sa fille, etc. Voilà. Et c'est banal parce qu'on a un fonctionnaire qui fait ça toute la journée, donc lui, ça, on est plus ému que lui, a priori. Ouais. Donc c'est très banal. Puis là, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que c'est à la fois l'acte de naissance civile de quelqu'un qui va garder ça toute sa vie, évidemment. Et d'un autre côté, c'est un acte d'une banalité incroyable. Donc tout peut se passer. Voilà. Alors, je ne saurais pas ce qui se passe, mais c'est voilà, peut y avoir un vice de forme, peut y avoir une erreur, peut y avoir tout ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a des gens comme ça qui traînent une erreur de nom de famille ou d'une mauvaise orthographe d'un prénom et puis le traînent toute leur vie alors que c'est simplement un fonctionnaire qui a mis un allèle au deux. Donc voilà, donc ça c'est parti de là et je me suis dit tiens, si ça dérape, qu'est-ce qui se passe ?
J'y pense. J'ai vécu un jour une idée de roman comme ça. Je viens de dire c'est une idée de roman. C'était quand je suis allé déclarer la naissance de mon fils à l'état civil. Je faisais la queue et avant moi, il y avait une dame d'une 60aine d'années avec quelqu'un qui avait une 30aine d'années et qui avait l'air d'être son fils. Et ils étaient très joyeux, c'était vraiment sympa. Et je me demandais de qui c'était l'enfant. Ils blaguaient. Puis ils sont assis devant moi, on entend quand même un tout petit peu. Et la personne dit « Vous venez de déclarer quoi ?» Elle dit « Un décès. » Et ils étaient tout contents. Ouais. Et je me suis dit « Mais quel bon départ, quelle belle histoire !»
Oui, oui, parce qu'il y a ce contraste entre la vie de quelqu'un, que ce soit une naissance, un décès, etc., et le fonctionnaire qui est là, et même s'il a de l'empathie, bon, il fait ça toute la journée, donc à un moment donné...
Oui, mais c'était les gens qui venaient déclarer le décès, qui étaient très heureux. C'est eux qui étaient très contents, ils étaient débarrassés. Il y a de très belles trouvailles de style dans votre roman, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas seulement un thriller. Là, on parle de technique, parce que moi, j'ai été happé, et on ne peut pas tout raconter dans une émission comme ça, et surtout, on ne va pas raconter tout ce qu'il y a dans le roman, mais il y a des trouvailles de style que j'ai appris grâce à vous, ce qui était un sourire minimal. Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit là-dessus ?
Ah, le sourire
avant de sortir, Vicky lui octroyait un sourire minimal, celui qu'elle réserve aux crétins dont elle pourrait encore avoir besoin.
Oui, c'est ça, ça peut arriver à tout le monde, ça quand même. Voilà, on ne veut pas se fâcher complètement. Enfin, on fait le minimum, quoi.
Et j'ai bien compris. Vous avez travaillé en musique ou pas ?
Alors moi, j'écoute du folk, toujours. J'écoute pas de chansons françaises parce que ça me perturbe. J'écoute pas non plus de rock. Enfin, j'en écoute du rock, mais pas quand j'écris parce que voilà, c'est un peu violent. Donc finalement, j'ai trouvé que c'était du folk anglais, britannique.
C'est pas vrai.
Et j'écoute ça tout le temps. Je suis dans ma bulle, j'ai mes playlists. Et voilà.
Attention, je suis tellement déçu. Je pensais que vous aviez écouté ceci pour écrire trois vies par semaine.
Mais trois nuits par semaine, c'est ça.
Même pas.
Même pas. J'aime bien Dauphine, mais non. Alors, en plus, c'est un titre que j'ai trouvé vraiment à la fin, parce que moi, j'étais bloqué sur les marionnettes. Mmh. C'est un roman qui parle beaucoup de marionnettes. Et je cherchais des chansons qui parlaient de marionnettes et rien ne fonctionnait. Et à un moment donné, je suis parti sur trois.
Les marionnettes, c'est Christophe.
Bah, y a Christophe, il y a Pierre Bachelet, il y a même Téléphone. Enfin, il y avait pas mal de choses qu'on a retrouvées.
Un avion sans ailes, votre roman avec le crash d'avion et ses deux petites filles, c'est aussi, on pense beaucoup à la chanson de Charlie-Lee Couture quand on lit le titre.
Ouais, dans Un avion sans ailes, en plus, il y avait vraiment la référence à Comme un avion sans ailes. La petite fille était surnommée Libellule à cause de la chanson. Ouais. Donc il y avait vraiment un lien avec là. Là, il n'y a pas de lien avec vraiment Indochine, si ce n'est ce rapport avec le chiffre 3. Puis évidemment, ce titre que tout le monde connaît, quoi.
Michel Bussy, vous restez avec nous. On va parler jeux vidéo, on va parler séries, trois vies par semaine, cinq émissions dans la même heure avec Michel Bussy. Quel bonheur, vous êtes bien sur Europe 1.
Michel Bussy est de retour en librairie. Trois vies par semaine, c'est son nouveau roman. Évidemment, on en parle dans Culture Média sur Europe 1.
On parle de ce livre qui peut peut-être devenir une série, peut-être un film. Où en est votre projet Néo pour la télé? Parce qu'il y a beaucoup de créations de vous qui sont devenues des films, des livres, des séries. Néo, ça va se faire. C'est un sujet pour les ados plutôt.
Ouais, Néo. Alors, on travaille dessus avec les plateformes. Hein. C'est un sujet plateforme. Donc, on est avec Studio Canal. On continue il y a des choses qui avancent. Voilà, on est sur les premiers développements. Mais bon, ce n'est pas encore complètement signé. Par contre, il n'y a rien de T'Efface, qui est mon dernier roman, qui se passe d'ailleurs à la Bourboule, en Auvergne.
Ouais.
Et ça va être tourné pour TF1, là, en 2023. En tout cas, c'est très bien avancé.
Une série ?
Une série, une mini-série de 6 ou 8 épisodes, a priori. Quoi. Donc ça, on est dans les ultimes écritures.
Vous êtes fan de séries ?
Pas trop.
Ou est-ce que vous êtes comme les
barman
qui boivent jamais d'alcool ?
Souvent, je regarde les premiers épisodes et puis après, ça me suffit, je suis pas. Donc voilà, donc je suis plus effectivement cinéphile, les one-shots que les séries. Bon, enfin, ça m'arrive quand même de temps
en
temps.
Vous regardez les premiers épisodes et puis vous ne suivez pas parce que vous ennuyez ou parce que ça y est, vous avez compris le principe et vous passez à autre chose ?
Il y a un peu ça. J'ai un peu construit le principe, je dis ouais, c'est pas mal. Et puis,
j'arrête. Et vous avez la fin avant tout le monde.
Je devrais regarder ça, c'est génial. J'en regarde, je dis ouais, c'est pas mal. Et puis après, j'oublie de regarder la suite.
Il y a quelqu'un dans cette équipe qui dit tu devrais regarder ça, c'est génial. Elle s'appelle Héloïse Gouard. Salut Héloïse, non, c'est un peu votre pitch de départ.
Bah oui, c'est
regarde ça.
Ça,
c'est génial. Oui. Et là, c'est encore mieux. C'est des séries qui sont là, mais qu'on aurait ratées.
Oui, bah c'est ça. Parce que je ne sais pas si c'est votre cas, Michel Bussy, même si vous ne regardez pas toute la saison. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent un temps fou devant leur ordi à chercher une bonne série et qui n'arrivent pas à se décider. C'est souvent un bon motif d'engueulade hein, de couple. En fait, il y a tellement de séries qui sortent chaque semaine que beaucoup de très bons programmes sont sous-cotés ou trop vite oubliés. Je vous propose donc de rectifier tout ça avec trois séries quasiment passées sous les radars, mais qui méritent vraiment qu'on s'y attarde.
Alors, on débute par une comédie.
Une comédie de science-fiction même, ça s'appelle Upload. Cette série est restée assez confidentielle et pourtant, elle est signée par Greg Daniels, qui est déjà à l'origine de The Office et de Parks and Recreation.
Wow.
Upload, ça se passe en 2033. Les humains peuvent désormais accéder à la vie éternelle. En fait, chacun peut uploader, c'est-à-dire télécharger sa conscience sur des serveurs. Le personnage principal, c'est Nathan. Il meurt prématurément. Il va donc accéder à un paradis numérique qui est en fait assez loin de l'idée qu'il s'en faisait.
Ah oh ouais, du bacon et aussi des pancakes, ouais. Oh, et du pain perdu. Ça, c'est ce que j'appelle un petit déj.
Il est maintenant 10h, le petit déjeuner est terminé.
Quoi ? Alors ? Oh non, merde! Mais c'est même pas de la vraie bouffe en plus! Je sais même pas pourquoi j'ai faim, on a besoin de rien ici.
Les premiers uploads ne mangeaient rien, ne chiaient pas et n'avaient pas de paupières. En seulement une semaine, ils ont fini à l'asile.
Merde!
voilà, vous rigolez et on rigole beaucoup. Dans cette série qui est un peu un mélange de Black Mirror et de The Good Place, c'est souvent très drôle, il y a beaucoup de gags visuels, mais les épisodes interrogent aussi des thèmes plus sérieux qui touchent davantage à la morale. Upload, donc, les deux saisons sont à voir sur Prime, la plateforme d'Amazon.
Et on peut donc les uploader. Oui. On continue avec une série d'espionnage, Héloïse.
Oui, alors espionnage, c'est un grand mot parce que les agents de la série Slow Horses sont en fait des bras cassés. On est plus sur du OSS 117 que sur du 007. Hein. La fiction est adaptée d'une saga littéraire britannique du même nom, Slow Horses. On suit donc les aventures d'un jeune agent du MI5 qui atterrit à L'Étable. C'est un bourbier dans lequel sont relégués tous les nullos des services secrets.
C'est bien ça.
L'Étable est dirigé par Jackson Lamb, joué par un Gary Oldman très en forme.
Travailler avec vous a été le pire moment de ma misérable carrière. C'est pire de devoir vous expliquer quoi que ce soit que d'apprendre à se raser à un canard.
Je voulais pas le tuer, moi.
Évidemment, si vous l'aviez voulu, ce pauvre type serait encore en vie.
Avoue-le, tu tiens à eux.
Non, pour moi, c'est rien qu'une bande de tocards. Mais c'est mes tocards.
Doublage.
Oui, ces rebuts du MI5 qui d'habitude ne font que trier de la paperasse, et ben évidemment, ils vont se retrouver accidentellement au cœur de l'action et ils vont enchaîner plein de grosses bêtises. C'est de l'humour britannique, ça va à toute vitesse, ça fonctionne très bien. Slow Horses, 2 saisons sur Apple TV+.
Et puis vous nous conseillez une dernière bonne série pour la route, comme on dit, jamais 203.
Oui, la série Chloé. Alors elle est moins drôle que les deux autres, c'est un mélange de polar et de thriller psychologique. Le pitch est assez original et les personnages ont un côté hitchcockien. Becky est une jeune femme assez dérangeante qui passe son temps sur les réseaux sociaux à espionner une certaine Chloé. Et l'intrigue commence quand Becky reçoit ce coup de téléphone.
Le rapport d'enquête montre que le 12 avril, vous avez raté 2 appels émis par Chloé Fairbourne. Savez-vous pourquoi elle vous appelait ?
Non, elle n'est pas dans mes contacts. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous ouvrez une enquête ?
Désolée, mais je ne suis pas autorisée à vous divulguer ces informations. On doit retracer les dernières heures de Chloé.
Alors après cet appel, Becky devient obsédée par la mort de Chloé à tel point qu'elle prend une nouvelle identité pour s'infiltrer dans son entourage. C'est une série obsédante parce qu'il faut attendre la toute fin pour savoir si Becky est folle ou pas. Mmh. C'est très bien ficelé, très bien écrit, très bien filmé. Chloé, c'est sur Prime. Vous en connaissiez certaines de ces
non.
séries ou pas ?
Aucune.
Alors
non,
elles sont
aucune.
Bien passées sous les radars.
Ah ouais.
Complètement. Ça a passé voilà. Le crash test.
Et elle est folle ou pas alors ?
Ah ben non, mais je vais pas
dire. J'ai tenté. Est-ce qu'il y en a une qui vous a... Tenter Chloé, Upload ou Slow Horses, Michel Bussy.
Les trois, mais Upload pour commencer, parce que ça a l'air vraiment excellent, mais les trois, carrément. Ouais.
Ah, chouette.
En vrai, il dit ça, puis après, il va nous dire, je vais regarder un épisode et puis je vais arrêter.
Ah bah, vous verrez, si c'est ouais. Bien, je continue.
Il va essayer.
Michel Bussy, vous restez avec nous à parler de jeux vidéo avec Jean Z, Culture Média continue sur Europe 1. On reconnaît l'arrivée de Jean Z dans ce studio avec sa musique. On va parler jeux vidéo. Je sais que vous êtes un joueur, vous jouez aux jeux de société, Michel Bussy.
Ouais, je suis un grand joueur, un grand mauvais joueur, mais ouais. Voilà, je joue très très régulièrement. J'ai même édité des jeux, je teste. On a des soirées jeux, donc des championnats depuis 30 ans avec les mêmes copains. Et voilà, on teste plein de jeux de société, des jeux de cartes, des jeux de plateau.
Attendez, tout. Même avec les mêmes copains, vous trouvez le moyen de vous fâcher, de balancer la table quand vous perdez ?
Ah bah, si on est joueur, on est forcément mauvais joueur, sinon c'est pas drôle. Ouais. Le jouer, c'est de mauvaise foi, sinon il n'y a aucun plaisir à jouer.
Et est-ce que vous êtes gamer ? Est-ce que vous jouez avec des jeux vidéo ?
Non, très peu. Ça, je suis complètement passé à travers. Justement, peut-être parce que je jouais beaucoup avec des cartes ou des ouais. plateaux et des jeux de société classiques.
Ouais, et puis, s'il balance sa Switch, ça coûte cher.
On le faisait quand même.
Votre incontournable, Jean, ce matin, c'est un remake.
Oui, est-ce que vous connaissez l'expérience du Flow ? Flow, F-L-O-W.
Non, flow, je sais que ça veut dire le flow pour les rappeurs qui ouais, parlent bien, ouais, mais je sais rien de plus que ça.
C'est pas loin, mais c'est pas ça. Mais c'est un phénomène qui a été identifié par un psychologue qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Et pour lui, l'état de flow, ben, ça correspond à une espèce d'expérience optimale de la concentration, une espèce d'état psychique où on est focus 100% dans l'activité. On est tellement impliqué dans l'action, il n'y a que ça qui compte. Et non seulement il n'y a que ça qui compte, mais on est très très bon. Voilà, ça peut aussi s'appeler la zone. On est dans un espace d'état que je qualifierais de second.
Vous avez vu ce que font les joueurs de tennis avant de rentrer sur le court ? Ils ont une balle de tennis et ils la regardent comme ça pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutes. Et ils sont totalement focus sur la balle pour que rien qui se passe autour du court ne puisse les détourner de leur objectif.
Et bah c'est ça le flow. Et c'est dans un jeu que vous allez retrouver cette sensation. Ce jeu qui sort donc demain, le remake. Un remake d'un jeu qui s'appelle Resident Evil 4, qui sort donc sur PlayStation, Xbox Series et PC. Partout, sauf sur la Switch, vous venez de la citer. Ouais. Et là, il y a une petite lumière qui s'allume normalement dans le cerveau de Philippe Vandel. Qui dit, mais pourquoi il n'y a pas la Switch ?
Mais oui, pourquoi il n'y a pas la Switch ? Parce que Bussy l'a balancé sur la télé.
Technologiquement, la Switch, elle n'arrivera pas à s'aligner sur ces nouveaux graphismes de ce Resident Evil Remake qui sont totalement modernisés. C'est un jeu de 2023 plus un jeu de 2005. Cet épisode a été donc modernisé, qui modernise une saga sur la survie, sur l'horreur, avec des bases plus action, tout en préservant un peu ce sentiment de peur. Ce remake est toujours déconseillé au moins de 18 ans, ça c'est sûr. Et il permet aux nouvelles générations et aux nostalgiques, j'en ai rencontré ce matin dans les studios et dans les couloirs d'Europe 1, de revivre cette peur jouable.
Alors vous avez prononcé le mot saga, ça raconte quoi ?
Alors ça raconte Resident Evil, ça se passe généralement dans une ville américaine, Raccoon City, une ville de fiction, avec une poignée de policiers comme héros et qui font face, alors là c'est pas, en 2005 c'était un peu original, aujourd'hui ça ne l'est absolument plus, à des urbains zombifiés par une espèce d'épidémie.
On se croirait revenu
à The Last of Us. Le scénario de Resident Evil 4 se déplace en Espagne cette fois, ça suit les places d'un flic d'élite, Léon Kennedy, qui est envoyé dans un village perdu pour sauver la fille du président des États-Unis.
Perchoir, ici Condor 1.
Ici Hannigan, du nouveau ?
La fille du président, Eglon, elle est sûrement dans ce village.
Nos infos étaient correctes, bon boulot.
Il me faut l'itinéraire vers un lac, on l'a peut-être emmené là-bas.
Compris. Je vais voir ce que je peux trouver.
Dépêche-toi. Quelque chose est arrivé aux gens d'ici. Mon escorte... Faut que j'y aille, je te rappelle.
Alors, vous avez compris, ça ne va pas se passer comme prévu. Ça, c'est juste le début du jeu. Les habitants de ce village reculé d'Espagne, proche d'un petit lac et d'un vaste château, eh bien, vont amener du piment à cette aventure narrative découpée en chapitre, voilà, comme un roman. Et comme dans un bon roman, vous n'aurez qu'une envie, effectivement, tourner la page.
Alors, est-ce que ce jeu de 2005 est devenu un bon jeu de 2023 ?
Oui, parce que le rythme est très bon. Il est toujours très bon. Il était très bon en 2005. Il est encore meilleur en 2023. Il y a des phases d'action. Alors, quand je dis phases d'action, c'est que ça défouraille. Hein. C'est flingue, c'est mitrailleuse.
Parce que là, ce qu'on entend, pour les gens qui ne connaissent pas les jeux vidéo, c'est ce qu'on appelle un animé. Oui. On entend cette scène et puis après, nous, on joue.
Exactement.
Ouais, ça se lance pas pendant qu'on est en train de jouer.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et là, c'est pour ça que c'est un jeu narratif, c'est qu'il se permet d'avoir des temps non joués pour raconter une histoire, on va dire, un peu plus en profondeur, même si le scénario est quand même un peu mince, mais l'action est tellement prenante, ça prend tellement, et puis on a envie tellement d'aller au chapitre, ça finit par un cliffhanger, mais ça, Michel Bussy le sait bien mieux que moi. Ils savent tourner la page dans un jeu vidéo, et ça, c'est un vrai talent, et c'est pour ça que ce jeu de 2005, eh ben, il est toujours aussi bon aujourd'hui. Alors, il y a un côté Massacre à la tronçonneuse, hein. Voilà, hein, le campagnard, c'est pas Farming Simulator. Hein.
Ouais.
Voilà,
il a... D'où les moins de 18 ans, l'interdiction aux moins de 18 ans.
Ça saigne quand même, hein, ça saigne quand même beaucoup, beaucoup. Non, mais vraiment beaucoup. C'est un jeu d'horreur à la base, mais c'est devenu plus peut-être un jeu d'action. En tout cas, c'est vraiment excellent et c'est pour ça que ce Resident Evil, Evil 4 Remake est encore un must-have ou un must-play en 2023.
Je vois dans votre regard que vous pensez à chaque mot que vous dites,
mais
totalement. Ça vous a fait sourire, ça vous tente ?
Ah non, pas du tout. Je suis très admiratif parce qu'en fait, il y a une créativité qui est très proche des romanciers, forcément. Mmh. On écrit des histoires, on rend addict les gens qui jouent, donc c'est formidable. Mais je suis complètement passé outre, peut-être parce que j'avais peur d'une addiction, en fait. Si j'avais été peu tôt et qu'il y avait eu tout ça, effectivement, peut-être que je serais tombé dans cette addiction. Là, je m'en suis un peu gardé pour être sur ces autres formes de jeu ou d'écrire, tout simplement.
Ouais. S'il avait été peu tôt, un mot de 78, merci.
Oui, c'est ça, mais oui, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas des jeux vidéo.
On a tous rajeuni.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 3 vies par semaine. C'est le nouveau roman de Michel Bussy, votre invité Philippe Vandel.
On parle évidemment, on faisait référence Michel Bussy à la chanson d'Indochine, 3 nuits par semaine. Anissa parlait d'Un avion sans aile, la chanson de Charlie Couture qui est devenue aussi un titre de film. Et puis, il y a aussi celle-ci. Ça, c'est l'original. Maman a tort, Mylène Farmer.
Ouais, tout à fait. C'est un de mes romans qui est sorti il y a quelques années. Voilà, on en a fait une jolie série sur France 2 aussi. Voilà.
Entre-temps, j'ai perdu ma page, qui était ma page 21. J'avais une super question qui arrivait juste après, mais je l'avais perdue. Je vais la retrouver pour vous demander ce que je voulais vous dire. Je vais écouter, j'ai perdu ma question. Je ne sais plus quoi dire, parce que je crois que je l'ai mise à la poubelle en me disant, tiens, je vais lui demander ça. Ça fait vraiment un très bon enchaînement. Alors, je vais vous dire quand même, je vais le citer de mémoire, ce que je voulais vous dire. C'était que cette chanson-là, moi, je l'ai découverte sur Radio Nova, et qui était une radio quasiment locale. C'est pas leur faire injure que de dire que c'était une radio un peu pour les happy few parisiennes, et qui passait Mylène Farmer, Maman a tort. Et puis le jour où Mylène Farmer a eu du succès, ils l'ont plus passé. Ouais. Et est-ce que c'est pas là-dessus un symptôme de la critique parisienne qui brûle ce qu'elle a adoré, et quand quelque chose a du succès, et c'est votre cas, elle a moins de propension à en parler.
Oui, alors bon, je vais pas comment dire critiquer, parce que quelque part je suis invité Europe 1, je fais de la promo un peu partout, donc il y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai, ce qui est amusant, ceci dit, il faut admettre que quand on a du succès, Un des marqueurs du succès, c'est quand on commence à avoir des critiques négatives. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, on est quand même très suivi par les réseaux sociaux, par les étoiles qu'on peut s'y mettre sur des sites. Et donc, forcément, on regarde quand on est auteur. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'est pas connu. On a très peu de commentaires, mais c'est que des commentaires géniaux en disant c'est génial, personne ne connaît cet auteur, mais ce qu'il écrit c'est super bien. Et quand on commence à avoir une étoile en disant vraiment, mais comment il fait pour vendre des livres, c'est vraiment nul, c'est détesté. Bon, on se dit que là on a atteint un stade où les gens peuvent s'acharner un peu sur vous, et ça prouve que quelque part vous suscitez un peu de jalousie ou un peu de réaction, donc faut le voir ça, de façon positive.
Mais est-ce que vous êtes déjà senti mis à distance par le petit milieu littéraire parisien ?
Oui, bah forcément, on a un truc très particulier en France qui est un peu une littérature à deux vitesses, qui marche en tout cas sur deux jambes. C'est-à-dire, il y a une jambe populaire, les Français lisent beaucoup, on est un des pays qui exporte le plus de livres à l'étranger, donc on a vraiment une littérature populaire, notamment policière, très très forte. Et puis on a une littérature plus glamour, la littérature des prix littéraires, la littérature qui se vend beaucoup, qui se vend moins, mais qui est très médiatisée. Et après tout, c'est peut-être pas si mal que cette littérature marche sur deux pieds, même si c'est un peu dommage que ces deux pieds, parfois, ne se rencontrent pas, ne dansent pas plus ensemble.
Alors, c'est un peu dommage. C'est aussi ce que pense le feuilleton littéraire du Monde, qui est signé Tiphaine Samoyo. Elle vous consacre un long papier. Elle dit toutes les biens qu'elle pense de votre écriture. Elle se demande pourquoi on ne parlerait pas de vous dans ces pages, dans les pages du Monde. Je résume à grands traits. Elle dit pourquoi une série Netflix qui cartonne, c'est top, et un romancier français qui cartonne, c'est vulgaire, pas de ça chez nous.
Oui, oui, bah c'est tout à fait vrai. C'est vrai que les écrivains qui vendent le plus sont souvent un peu décriés, comme si ce n'était pas de vrais écrivains. Voilà. Alors
non, mais ce qui est très étonnant, c'est là où je voulais en venir, c'est que quand ils ne vendaient pas, les gens adoraient. Moi, je me souviens de Paulo Coelho, quand personne ne connaissait l'alchimiste. C'était dans tous les papiers, on expliquait que c'était un génie et que ce petit gars brésilien renouvelait la littérature. Une fois qu'il a vendu des millions à travers le monde, on expliquait que c'était surfait, que c'était de la littérature au kilomètre et que ce n'était même pas de la littérature. Donc ça fait bien, bien plaisir de lire des choses pareilles. Ce que dit Tiphaine Samoyo dans Le Monde.
Non, c'est un très très joli article. Et puis surtout, pas oublier que souvent on est quand même assez éclectique, c'est-à-dire qu'on peut aimer la littérature populaire et un livre plus difficile.
Vous êtes géographe de formation, on l'a dit, les lieux où se déroule l'action de vos romans sont très importants chez vous. Les titres de vos chansons, c'est des titres de livres.
L'inverse.
Et inversement. Est-ce qu'un jour, Michel Bussy, vous pourriez choisir comme titre de roman ceci ?
Oui, à Saint-Tropez.
Pourquoi je dis ça ? Parce que vous êtes le roi du twist.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai ?
C'est vrai, oui, ouais. Complètement. Alors, le roi du twist, attention, c'est le twist.
Le twist littéraire.
Le twist littéraire, le rebondissement.
Ah, voilà, vous imaginez déjà sur la piste de danse, nous.
Alors, je ne sais pas comment est venu ce nom de twist, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de twist quand on a un retournement
twist,
de situation.
C'est un demi-tour.
Voilà, c'est un demi-tour. Voilà. Mais c'est ce terme qui s'est un peu imposé aujourd'hui pour le rebondissement d'un roman, ouais.
Il y a un nombre de twists dans ce roman extraordinaire. 3 vies par semaine, il y en a plus de 3. C'est signé Michel Bussy. Merci d'avoir été notre invité en direct sur Europe 1 ce matin. Nous, on se retrouve demain, évidemment, à 9h pour Culture Média. On va parler des 30 ans de l'émission culte du dimanche soir. Non, c'est pas le film qui passe tard avec des musiques un peu sirupeuses, c'est Zone Interdite. On sera avec le créateur Patrick de Carolis et le producteur rédacteur en chef de l'émission Jean-Marie Tricot et puis la comédienne Marie Gillin pour une pièce de théâtre. Ça s'appelle Sur la tête des enfants. Ça aussi, c'est un beau titre. Juste après le flash, Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour,
vous étiez avec
Philippe,
nous en début d'émission.
Oui, bonjour,
vous êtes avec
Philippe.
Nous en fin d'émission. Oui. Le programme du jour.
Alors aujourd'hui, je pense qu'on va être dans une bonne ambiance de la journée. On va parler de rumination. Vous savez, est-ce que vous avez tendance à beaucoup ruminer ces idées, ces pensées négatives, toxiques, qui tournent en boucle dans la
quand
tête.
Quand on se couche le soir,
Julia,
souvent.
Elle parle souvent de cailloux dans la chaussure.
Oui, moi je me réveille le matin et je me dis j'ai un truc qui cloche et je sais pas quoi. C'est ma rumination.
Et bien, on va apprendre à sortir de tous ces mécanismes, à les dépasser et à faire en sorte qu'elles arrêtent de nous pourrir la vie, justement.
Ouais.
Et puis, il n'y a pas que ça, Julia, il y a d'autres trucs.
Oui, il y a d'autres trucs. C'est pour ça qu'il faut écouter Bienfait pour vous. Hein. C'est la meilleure émission, vraiment.
Émission surprise. Vous verrez bien. Anti-rumination.
Peut-être après Culture Média.
Ah oui, après Culture Média.
On va ruminer ça. À demain. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut Michel Bussy.
Merci, au revoir.